Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La mondialisation n'affecte pas seulement nos modes de vie et de consommation, elle favorise aussi le développement et la transmission des virus et des bactéries. Aujourd'hui, plusieurs pandémies, c'est-à-dire des épidémies à large rayon géographique, affectent la planète. Dans nos pays, les campagnes de vaccination sont venues à bout des maux qui, il y a un siècle encore, fauchaient massivement la population, à commencer par la grippe espagnole, qui a fait plus de morts que la guerre de 14. Plus récemment, on se souvient de la grippe aviaire, propagée par les volailles asiatiques. On continue de se battre contre le VIH, ce virus de l'immunodéficience humaine venu d'Afrique à la fin du siècle dernier, qui provoque le sida et contre lequel on n'a pas encore trouvé de vaccin. Sida, tuberculose et malaria sont aujourd'hui les pandémies que le monde développé sait à peu près combattre, mais elles continuent de faire des ravages ailleurs et d'abord en Afrique. S'y ajoute Ebola, une épidémie qui a ressurgi depuis quelques mois en République démocratique du Congo. Jeudi prochain vont se réunir à Lyon les acteurs publics et privés qui depuis 17 ans se sont associés au sein d'un fonds global sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le VIH, la tuberculose et la malaria. Parmi eux, Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom, l'occasion donc de l'interroger sur les raisons de son implication, le bilan de tels efforts et aussi de demander à des experts jusqu'à quel point en matière de santé publique, les moyens disponibles sont à la hauteur des enjeux et les communautés concernées suffisamment impliquées. C'est ce que nous allons explorer grâce à vous, professeur Jean-Claude Manuguera. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'unité Environnement et risques infectieux à l'Institut Pasteur, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence. Bonjour. Avec nous aussi Nathalie Ernoux, directrice de plaidoyer pour la campagne d'accès aux médicaments essentiels à Médecins sans frontières international. Et par téléphone de Kigali au Rwanda, Corinne Karema, le docteur Corinne Karema, vous êtes médecin responsable du programme du contrôle et de l'élimination du paludisme à l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Et puis donc Bill Gates, avec lequel nous avons pu enregistrer un entretien par téléphone il y a 3 jours. Professeur Manuguera, je commence avec vous. L'Institut Pasteur fait donc partie d'un réseau mondial qui a été mis en place depuis quelques années pour essayer de, sinon de guérir, en tout cas de prévenir au maximum ces pandémies.
Tout à fait. Donc en l'an 2000, sous l'impulsion de diverses organisations, mais coordonnées par l'Organisation mondiale de la santé, a été créé le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie. Et donc ce réseau est un réseau de réseaux en fait qui fait intervenir des structures comme Médecins sans frontières, comme la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissant-Rouge, comme le CDC américain, le CDC européen et également donc l'Institut Pasteur et le réseau international des Instituts Pasteur qu'on retrouve sur les 5 continents.
Et ça l'a permis en particulier, on s'en souvient, entre 2014 et 2016, quand on a découvert donc cette nouvelle maladie, qui n'est pas une pandémie. Hein, et Ebola, il faut être précis sur les termes que l'on emploie.
Tout à fait. Alors en fait, les premières actions de ce réseau ont été au moment du SRAS, ou de la pneumonie atypique, en Asie du Sud-Est, notamment en Chine, au Vietnam, Singapour et Hong Kong, en 2003. Où là on a pu voir que la mise en réseau de laboratoires notamment avait aidé à identifier rapidement le nouveau virus.
Et puis c'est le virus pour lequel on avait stocké massivement
Non, c'est le virus de pneumonie atypique qu'on ne connaissait pas du tout, le SRAS à l'époque. Et depuis le réseau est intervenu de très 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 nombreuses fois sur des théâtres d'épidémie qui sont très très variés et qui sont d'origine différente. Alors Ebola n'est pas une pandémie, puisque pour l'instant, il y a toujours un point de départ zoonotique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un passage de l'animal réservoir via une espèce intermédiaire à l'homme, que les chaînes de transmission s'interrompent au bout d'un certain temps et l'épidémie s'arrête. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que les chaînes d'épidémie, d'abord, ont gagné des villes, des capitales, notamment en 2014-2015, et les chaînes
en Afrique de l'Ouest, qui est un territoire
et qui était un territoire qui était indemne de cette maladie. Et on constate maintenant que la deuxième plus grande épidémie qui sévit en République démocratique du Congo dure depuis plus d'un an, avec toujours des transmissions qui ne s'arrêtent pas.
Que l'on comprenne bien, quand il s'agit des pandémies, là on parle donc du VIH-Sida, tuberculose, malaria. Quel est l'ordre de grandeur? J'ai lu quelque part que la tuberculose, à l'échelle mondiale, tue plus de gens que le sida, la malaria, la variole et Ebola combinés.
Oui, alors la pandémie, c'est une question d'extension géographique. Hein. Une pandémie sévit à peu près partout sur le globe, hein, c'est la définition. Alors on peut être restreint à certaines parties. Ce sont des virus de bactéries qui sont ubiquitaires. Alors effectivement, la tuberculose est la première maladie infectieuse qui tue le plus. Je crois, dans ma tête, 1,3 million de personnes qui meurent chaque année. Le VIH a un peu diminué, mais on est quand même à 900 000 personnes qui meurent par an. On peut quand même citer la grippe, qui, notamment la fameuse grippe H1N1, dite mexicaine, et qui a été, on avait dit, plus gentille que ce qu'on avait craint, a plus tué qu'Ebola.
On avait stocké tous ces
tout
vaccins.
Tout à fait. Et a tué plus de monde que l'épidémie d'Ebola d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des maladies qui sont à répartition globale et qui tuent beaucoup. Alors elles tuent aussi beaucoup dans les pays en voie de développement, puisqu'il y a toujours une association avec entre la gravité de l'expression des épidémies et des infections dans les pays en développement.
Bien sûr, et avec des appareils sanitaires qui ne sont évidemment extrêmement déficients. Le fonds global a été créé il y a 17 ans avec pour vocation spécifique de s'attaquer à ces trois pandémies.
Je suis pas un spécialiste de ce fonds, mais effectivement, ce sont les maladies infectieuses qui tuent le plus et sur lesquelles probablement on peut avoir une action, notamment par l'utilisation d'antimicrobiens, antiviraux, antirétroviraux et antibiotiques pour ce qui concerne la tuberculose, et puis des recherches et des antipaludéens pour la malaria.
Donc, jeudi prochain à Lyon va se réunir le groupe représentant des États et des fondations qui vont donc procéder à ce qu'on appelle la reconstitution du budget de ce fonds pour les trois prochaines années. L'objectif est de réunir 14 milliards de dollars et parmi les personnalités présentes, Bill Gates, que j'ai donc pu interroger par téléphone. Il était dans son bureau de Seattle, au nord-ouest des États-Unis, et je lui ai demandé quels sont l'objectif et le bilan de ce fonds global. Sa réponse.
Eh bien, il y a trois ans, le fonds global s'est réuni au Canada et a levé 12 milliards 100 millions de dollars. Et au cours de ces trois dernières années, nous attendions cette reconstitution, nous n'étions pas sûrs de pouvoir lever plus d'argent que la dernière fois. Heureusement, le président Macron a décidé d'accueillir cette conférence de reconstitution des ressources et le Fonds mondial, la Fondation Gates et le président Macron a parlé aux donateurs et a fait savoir l'excellent bilan de ce fonds. Et je pense qu'il y aura un accroissement significatif de plus de 10% par rapport à ce qui a été levé la dernière fois. Lorsque l'on veut lutter contre des maladies, on n'a jamais véritablement tout ce que l'on voudrait. Dans le cas du Fonds mondial, cet accroissement aura un impact extrêmement positif dans la lutte contre les trois maladies. Le nombre de morts a diminué de façon significative. Et en fait, ces fonds supplémentaires sont une incitation à trouver des nouvelles molécules qui pourront être utilisées pour combattre ces maladies. Et à Lyon, j'aurai l'occasion de parler parler de l'innovation. C'est extraordinaire pour moi de voir cet accroissement extraordinaire.
Vous avez créé avec votre épouse Melinda la fondation qui porte votre nom et dont le budget opérationnel est supérieur à celui de l'Organisation mondiale de la santé. À un moment où on voit que partout l'aide publique au développement est en baisse, est-ce que les acteurs privés, à commencer par vous, doivent compenser cette diminution des budgets gouvernementaux et agir et financer encore davantage?
La principale source de financement pour la recherche et le développement contre ces maladies et pour utiliser ces inventions, ces innovations, continuera de venir des gouvernements. Les gouvernements des pays développés, et l'Europe a été très généreuse de ce point de vue-là, la majorité de l'aide pour le développement vient de là. Et ces pays en développement, quand ils seront un peu plus développés, pourront lever plus d'impôts grâce à leurs ressources intérieures. Donc les fondations peuvent aider avec diverses innovations, mais elles ne sont pas suffisamment grandes pour pouvoir être les sources principales de financement. Ce sont les gouvernements des pays développés, le Fonds mondial, qui, de façon extrêmement majoritaire, ces fonds viendront des pays développés. Mais c'est impressionnant. Même lorsqu'on entend des gens qui parlent de se renfermer sur eux-mêmes, dans ce cas-ci, ces pays ont contribué encore plus que précédemment.
Docteur Karema, bonjour. Vous êtes à Kigali, capitale du Rwanda. Vous êtes médecin et vous dirigez le programme de lutte contre le paludisme au sein de l'Alliance des chefs d'État africains. Je crois que vous dirigez aussi le groupe d'experts paludisme du Fonds mondial. Quel est le bilan de l'action de ce fonds concernant cette maladie qu'on appelle plus communément la malaria?
Je dirige le groupe d'experts paludisme pour le comité technique d'examen des propositions du Global Fund. En ce qui concerne le bilan du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, ce qui est d'abord très important, c'est que le Fonds mondial, c'est vraiment un partenaire clé pour la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. En ce qui concerne principalement le paludisme, 60% du financement mondial de la lutte contre le paludisme vient du Fonds mondial. Donc, vous comprenez exactement comment est-ce que ce fonds est très important. Et en ce qui concerne, par exemple, quand on regarde depuis 2002, en ce qui concerne tous les efforts qui ont été faits, donc depuis 2002, en comparant par exemple avec l'année de 2017, on voit que les efforts ont permis de sauver plus de 32 millions de vies, et aussi étendre l'accès aux soins de santé aux communautés qui sont touchées par le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Et plus précisément, en ce qui concerne le paludisme, quand on compare l'année 2010 à 2017, on a par exemple, quand on essaie de voir les pays qui sont touchés par le paludisme, ça a chuté de 106 pays à 86 pays. Et le taux de mortalité qui est lié au paludisme a chuté de 60%.
Et docteur Karema, grâce à quels moyens, quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre ces résultats en Afrique?
Ok, donc premièrement, le financement du Fonds mondial a permis de pouvoir augmenter l'accès aux soins, augmenter la couverture, la distribution et les déploiements des interventions de lutte contre le paludisme, qui sont la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Quand on compare, par exemple, en 2010, on n'avait que 29% de la population à risque qui dormait sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. En 2017, nous sommes à 50%. En ce qui concerne, par exemple, le traitement préventif intermittent des femmes enceintes, on est à 0% en 2010 et en 2017, on est à 26% des femmes enceintes qui reçoivent le traitement préventif intermittent. Et aussi, par exemple, quand on regarde pour les enfants de moins de 5 ans, on est arrivé à 13 millions d'enfants de moins de 5 ans dans 12 pays d'Afrique qui ont pu recevoir la chimioprévention du paludisme. Donc ça, ce sont des interventions, non seulement la moustiquaire imprégnée d'insecticides, il y a la pulvérisation intradomiciliaire avec les insecticides, et il y a aussi le traitement et le diagnostic. Donc ça, c'est grâce au Fonds mondial, en complément avec l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, ils ont permis de pouvoir disponibiliser des fonds et bien sûr disponibiliser les interventions de lutte contre le paludisme.
Mais ces chiffres sont évidemment rassurants, impressionnants, mais il y a aussi dans la plupart de ces pays d'Afrique un développement démographique important. Quels sont les défis nouveaux pour les années à venir?
Ok, donc la première chose, on a des défis. Premièrement, on a des défis financiers. Donc normalement, les experts, on a besoin d'à peu près de 6 milliards de dollars pour la lutte contre le paludisme mondialement chaque année. Pour le moment, nous sommes qu'à 4,3 milliards de dollars américains. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a l'émergence des résistances aux antipaludiques que nous utilisons aujourd'hui. Donc déjà, en Asie, on a une très haute prévalence de la résistance des combinaisons à base d'artémisinine que nous utilisons aujourd'hui. Et pour le moment, qui sont vraiment les seuls médicaments que nous avons en disposition pour traiter le paludisme. Et bien sûr, il y a aussi la résistance des moustiques aux insecticides qu'on utilise. Et pour le moment, ça nous permet de pouvoir essayer de changer des insecticides qui sont plus efficaces, mais qui sont plus chers. Donc, on a aussi un problème qui est lié à la résistance des parasites et des moustiques aux médicaments et aux insecticides que nous utilisons. Et le troisième problème que je trouve, c'est l'engagement. Il y a un engagement qui n'est pas très
suffisant
au maximum qui n'est pas suffisante, surtout quand on regarde pour tout ce qui est les autorités politiques, les leaders, on ne doit pas toujours attendre du Fonds mondial pour essayer de disponibiliser des médicaments en Afrique. On a aussi besoin des pays africains qui contribuent, qui s'engagent et qui financent aussi les maladies de leur population affectée.
Docteur Karama, je vous interromps avant de poursuivre notre conversation, parce que je voudrais demander à Nathalie Ernaud, qui fait partie donc de la campagne pour l'accès aux médicaments essentiels lancée par Médecins sans frontières au niveau international, par rapport au modèle de financement que représente donc ce fonds mondial, pour lequel donc on va tenter de lever un nouveau montant tout à fait important de 14 milliards de dollars. Est-ce que c'est un modèle de financement qui, selon l'ONG que vous représentez, correspond aux besoins?
Je voudrais juste dire deux choses. C'est vrai qu'à sa création, le Fonds mondial a été extrêmement utile pour mobiliser des ressources et autoriser, favoriser en fait l'accès à tous ces traitements, notamment à des coûts relativement bas. On a vu l'arrivée des médicaments génériques, de pouvoir aussi mettre à disposition des diagnostics dans les pays et donc, de fait, de pouvoir mettre un certain nombre de personnes sous traitement. Et finalement, le succès du Fonds mondial, c'est quand même une multiplication par 3 du nombre de personnes qui ont été sous traitement. Donc ça, il faut reconnaître que dans ce sens, le modèle tel qu'il a été créé à l'époque a fonctionné. Si on revient sur la conférence de reconstitution qui aura lieu à Lyon la semaine prochaine et la demande des 14 milliards, on ne peut qu'être enthousiaste à l'idée que cette conférence de reconstitution soit positive et remplisse ses objectifs. Cela dit, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut mettre en évidence. Les 14 milliards, c'est en fait un objectif plancher par rapport aux besoins généraux que l'on trouve aujourd'hui en Afrique. C'est donc pas le plafond, on est bien sur une logique de plancher. Ensuite, ce besoin-là de 14 milliards, il est nécessaire pour maintenir en fait la dynamique qui a été lancée à l'époque de la création du Fonds mondial, pouvoir maintenir des gens sur traitements et pouvoir éventuellement initier de nouveaux traitements, c'est-à-dire diagnostiquer et mettre d'autres personnes sous traitement, puisqu'on l'a dit, la question qui est au cœur de cette problématique-là, c'est d'éviter la transmission du virus. Donc si on ne diagnostique pas et si on ne met pas sous traitement, bien évidemment, il y a une transmission.
Mais quand le docteur Karema dit qu'il faudrait que les États africains eux-mêmes, les dirigeants africains eux-mêmes s'impliquent davantage, et d'ailleurs Bill Gates y faisait allusion tout à l'heure, cette idée, en fait, que les pays africains, qui ceux-là, en tout cas, qui commencent à avoir un certain niveau de développement économique, devraient prendre eux aussi leur part.
Tout à fait. Je pense que ça, c'est un modèle qui est aujourd'hui assez répandu. Et d'ailleurs, les États africains ont déjà montré qu'ils augmentaient leurs ressources. On a vu un certain nombre d'États le faire depuis un certain nombre d'années déjà, et d'augmenter leurs ressources, ce qu'on appelle les ressources domestiques.
Par exemple, lesquels ?
Le Zimbabwe, par exemple, l'a fait. Mais aujourd'hui, ces pays, puisque le Zimbabwe, c'est un bon exemple, fait face à une crise financière majeure et fiscale majeure, et ne peut pas, en fait, assurer de mettre à disposition les montants sur lesquels il s'était engagé dans le passé. Ce qui met bien évidemment à risque, en fait, cet équilibre dont on est en train de parler, de diagnostiquer, de mettre sous traitement des populations. Ce que je voudrais quand même rappeler par rapport au modèle qui et à ce qu'a dit Monsieur Gates et ce dont on est en train de parler en ce moment, c'est que le scénario global aujourd'hui, il part d'une hypothèse selon laquelle les pays seraient en capacité de prendre globalement, tous ensemble, la responsabilité pour la moitié des besoins.
C'est ce qu'on appelle le système de transition qui est l'objectif induit par cette démarche.
C'est un des objectifs induits par cette démarche. C'est vrai d'ailleurs pour le Fonds mondial, c'est vrai pour Gavi, l'Alliance pour la vaccination, dont le modèle est beaucoup plus restrictif, je dirais encore, et moins ancré sur des problématiques de santé publique. Mais l'hypothèse sur laquelle on est aujourd'hui, c'est une hypothèse optimiste de s'imaginer que les pays sont en capacité, en fait, de mobiliser la totalité des fonds dont on est en train de parler. Et nous, on est un petit peu inquiets quand même, par les discours qu'on entend aujourd'hui, qui consisteraient à imaginer que dans les deux prochaines années, les pays sont en capacité de mobiliser la totalité de cette somme-là. Si ce n'était pas le cas, on aura bien évidemment moins de diagnostics, une recrudescence de la transmission, et c'est quand même ce qui nous inquiète un peu, parce qu'on est sur un terrain relativement fragile encore.
Docteur Karema, précisément, l'exemple de votre pays, le Rwanda, est tout à fait intéressant parce que je crois que c'est l'un des pays d'Afrique où le système de santé s'est amélioré le plus rapidement. Docteur Karema.
Oui, effectivement, le système de santé au Rwanda s'est amélioré et ces dernières années. Et bien sûr, c'est vraiment une croissance rapide. Et je pense que celle-là, elle n'est pas seulement dans le secteur santé, elle est aussi dans le secteur économique et le secteur de développement. Et ce qui est important aussi, c'est que le gouvernement investit vraiment en ce qui concerne le renforcement du système de santé et en mettant en place des agents de santé communautaire pour essayer de pouvoir augmenter l'accès des médicaments ou bien du diagnostic au niveau de la communauté.
Au niveau de la communauté, pardon, je vous interromps pour qu'on comprenne bien. Au niveau de la communauté, donc ça veut dire qu'il y a un système d'assurance à base communautaire au Rwanda.
Voilà. Donc, quand je parlais de la communauté, c'est les agents de santé communautaire. Donc, pour chaque village, on a 4 agents de santé communautaire qui sont chargés de la santé, qui font le diagnostic et le traitement du paludisme, qui soignent les enfants en ce qui concerne les diarrhées. Donc, ils donnent du zinc. Et ils soignent aussi la pneumonie avec des antibiotiques. Et bien sûr, ils font le suivi des enfants, ce qui concerne les indicateurs de nutrition, pour essayer de pouvoir prévenir la malnutrition. Donc ça, c'est des agents qui essaient de pouvoir faire approcher les soins de santé primaire dans la communauté.
Au-delà du cas du Rwanda, est-ce que vous considérez qu'il y a suffisamment d'experts africains et que les communautés sont suffisamment impliquées quand les ONG ou quand les agences internationales entrent en action?
Pour le moment, je crois qu'on n'est pas très satisfait de ce qui se fait pour le moment. Et je pense que c'est vraiment un problème partagé, que ce soit du côté des Africains et du côté des experts internationaux. Mais par exemple, quand on parle du Fonds mondial, le Fonds mondial est par exemple une meilleure pratique en ce qui concerne l'implication des communautés. Et quand on regarde comment est-ce que tous les mécanismes, par exemple quand on prend le conseil d'administration, les mécanismes et même le développement, l'élaboration de la proposition de demande de financement, il y a des obligations pour lesquelles on doit impliquer les communautés.
Mais les priorités, est-ce que les priorités locales sont suffisamment prises en compte? Est-ce qu'il y a une adaptation des moyens ou même des techniques utilisées par rapport au mode de vie, par exemple?
Donc, pour le moment, il y a quand même une amélioration, mais les priorités ne sont toujours pas atteintes. C'est, par exemple, quand on regarde, si on prend un exemple des insecticides, on peut avoir une insecticide qui est vraiment efficace, mais elle est efficace pour une maison qui a des murs en briques. Mais là, on va pulvériser des maisons, par exemple, qui sont faites en terre battue. Donc, je pense que quand même, en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne les innovations, il faut qu'on considère les priorités des communautés et leur façon de vivre et leur niveau de vie.
Une dernière question, docteur Karema. Il semble que les foyers Ebola, donc en République démocratique du Congo, touchent particulièrement la ville de Goma, qui est une ville frontière avec votre pays, le Rwanda. Est-ce que le Rwanda prend des précautions pour enrayer éventuellement une propagation de cette épidémie?
Oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que le Rwanda prend très sérieusement. Et en ce qui concerne tout ce qui est la préparation et la réponse à cette épidémie, par exemple, sur toutes les frontières, tout le monde est examiné en ce qui concerne, par exemple, les fièvres et en ce qui concerne tout ce qui est question de liste d'antécédents, de voyage, pour essayer d'identifier les cas qui peuvent être à risque et les mettre en quarantaine. Généralement, quand vous êtes une personne qui vient d'un site qui a des cas positifs, vous êtes mis en quarantaine jusqu'à ce que vous ne montrez pas les signes et puis vous pouvez continuer. Donc, on a mis un système de pouvoir détecter à temps et de pouvoir répondre directement au cas où il y aurait un cas d'Ebola. Mais pour le moment, on n'a pas encore identifié un cas d'Ebola au Rwanda.
Docteur Karema, merci mille fois d'avoir été au téléphone avec nous. Professeur Manugera, selon votre expérience et singulièrement l'implication donc de vos équipes de l'Institut Pasteur au moment de l'explosion d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, est-ce qu'on implique suffisamment les communautés concernées? On sait à quel point il y a des difficultés culturelles pour les convaincre, en particulier de la nécessité d'abandonner certains modes de nutrition, de plus manger de chauve-souris, parce que la chauve-souris est apparemment à l'origine de l'Ebola. Alors,
les difficultés sont à plusieurs niveaux. D'abord, on a toujours au début des épidémies un déni de la part des États qui ne veulent pas admettre qu'il y a une épidémie d'Ebola et que cette épidémie est importante et ne s'arrête pas. Ça a été le cas en Guinée, mais aussi en Sierra Leone et au Liberia au tout départ, où les cas ont un peu mis sous le tapis. Deuxièmement, lorsque les autorités prennent conscience et déclarent que l'épidémie est bien là, en fait, il y a dans certains pays, notamment dans les pays qui ont une instabilité politique, une certaine méfiance vis-à-vis des messages des autorités sanitaires de leur pays. Et donc, ces messages passent assez difficilement. Ces pays ont des systèmes de santé qui ont été désorganisés, dans lesquels la prise en charge des patients était déficiente et qui dispose peu de moyens. Ce qui fait que très très vite l'aide internationale arrive et c'est un petit peu un parachutage de cette aide internationale qui arrive un petit peu comme une espèce d'invasion de personnes étrangères et la communication avec les les communautés peuvent être très très difficiles, maladroites. On a eu quelquefois des messages un peu trop idéologiques. Et effectivement, on leur a dit ne mangez pas de viande de brousse. Mais on sait, quand on sait les difficultés d'approvisionnement en protéines animales, notamment les activités du programme alimentaire mondial en Guinée, par exemple. C'est un peu simpliste et un peu idéologique de dire ne faites plus ça. La chasse est essentielle dans certains villages. Alors il faut adapter. Il faut leur dire bien en fait quand vous voulez de la viande de brousse, eh bien il faut chasser l'animal. Ne prenez que des animaux que vous avez vus vivants. Ne ramassez pas des animaux morts qui étaient déjà morts. Et il faut adapter. Alors on a vu aussi à ce moment-là le besoin criant de sociologues, d'anthropologues pour faire passer des messages d'une manière intelligible culturellement par les personnes à qui on voulait s'adresser. Et ça, c'est un effort qu'il faut continuer.
Et est-ce qu'il y a moyen aussi d'impliquer des anciens malades, des gens qui...
Alors, il y a plusieurs canaux pour essayer de faire adhérer les communautés. D'abord, s'appuyer sur les chefs de village, sur les chefs coutumiers, ce qui est très très important, en dehors des circuits administratifs. Il faut également faire intervenir les malades. Et ce qui est important, c'est que de faire comprendre que quand on va dans un centre de traitement, on a plus de chances de s'en sortir que quand on n'y va pas ou quand on y va trop tard. Et ça, effectivement, le témoignage des rescapés de ces infections est important pour montrer qu'il peut y avoir la vie après le centre de traitement, et ça c'est important. On n'a pas assez fait, je pense que c'est important d'insister sur ce point-là.
J'ai demandé à Bill Gates si sa fondation a l'intention de s'impliquer davantage dans la lutte contre Ebola, et je lui ai demandé aussi de réagir à la dispute qui est en cours, semble-t-il, entre Médecins Sans Frontières d'un côté et l'Organisation Mondiale de la Santé de l'autre, puisque l'ONG réclame un accès plus ouvert aux vaccins. On verra tout à l'heure, Nathalie Ernoux, ce que vous avez à nous dire là-dessus, mais écoutons d'abord la réponse de Bill Gates.
Tous les acteurs de la santé mondiale, y compris notre fondation, sont très impliqués dans les flambées épidémiques de l'Ebola. La plus grande qui était en Afrique de l'Ouest est désormais celle qui est centrée sur la République démocratique du Congo et qui s'étend vers d'autres pays. Les outils s'améliorent. Nous avons des anticorps pour traiter les gens. Nous avons des diagnostics. Il y a deux vaccins différents. Les vaccins peuvent jouer un rôle positif pour protéger les travailleurs de la santé, pour qu'ils puissent entrer dans les zones infectées et faire leur travail. En Afrique de l'Ouest, beaucoup des travailleurs de la santé sont morts lors des premières flambées épidémiques. C'était terrible pour les gens qui étaient traités pour l'Ebola, et c'est terrible aussi pour les autres pays. Mais nous avons été impliqués. Il y a beaucoup de travail délicat à faire en termes de communauté. Parler aux communautés pour leur façon d'enterrer les morts, par exemple. Nous avons appris beaucoup lors des crises de l'Afrique de l'Ouest, et on en apprend beaucoup lors de cette crise en RDC. Mais j'espère que nous réussirons à maintenir tout cela sous contrôle. Mais parce que, en raison de ces controverses communautaires, c'est plus difficile qu'on ne le pensait.
Hamda Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire. Et comme chaque semaine, vous avez parcouru la presse internationale et vous avez évidemment trouvé beaucoup d'informations et de portraits de Bill Gates.
Oui, Bill Gates, c'est l'un des premiers visages à incarner la révolution de l'ordinateur personnel, écrit le quotidien américain Wall Street Journal. Alors le journal nous rappelle que le cofondateur de Microsoft était l'enfant prodige des logiciels dans les années 90, devenu milliardaire à seulement 31 ans. Alors à cette époque, son monopole sur le marché de l'informatique lui avait valu beaucoup de critiques. Maintenant, à 63 ans, 19 ans après avoir abandonné le poste de PDG de Microsoft, le journal rappelle qu'il est connu pour son investissement personnel visant à, je cite, « résoudre des problèmes insolubles à l'échelle globale à travers sa fondation dont vous avez parlé ». Évidemment, Bill Gates souligne pour sa part le magazine Forbes. C'est une des plus grandes fortunes du monde, aujourd'hui la deuxième, derrière Jeff Bezos, patron d'Amazon, et devant son ami, l'homme d'affaires Warren Buffett, selon le célèbre classement annuel établi par le journal Forbes. Et comme le rappelle le site Radio-Canada, c'est au tournant des années 2000 que Bill Gates s'est lancé dans cette nouvelle mission de philanthropie. Il s'engage alors avec sa femme Melinda dans cette œuvre caritative pour encourager les innovations en matière de santé et éducation. La fondation Bill et Melinda Gates devient alors l'organisation philanthropique la plus importante du monde, dotée d'un fonds de 50 milliards de dollars aujourd'hui, issu en partie de la fortune du couple. Comme le pointe le site de la chaîne CNBC, Bill Gates est un homme qui prend des risques, notamment quand en 2013, sa fondation s'est lancée dans un des projets les plus ambitieux jamais posés en matière de santé publique, éradiquer la polio. Et ses paris se sont révélés gagnants, selon le site, alors que la fondation, qui opère des programmes dans une centaine de pays, est aussi impliquée dans la lutte contre la malaria, le sida et en faveur de l'éducation, notamment des filles.
Il y a évidemment d'autres fondations qui agissent dans le domaine de la santé publique et la plupart sont américaines.
Oui, tout à fait. Il y a celle de Bill Gates, évidemment, celle de Warren Buffett, qui joue aussi un rôle très important dans le domaine de la santé des femmes, souligne le site Vox. Et dans le top 10 des philanthropes de la santé, on retrouve aussi la fondation William et Flora Hulett, spécialisée dans les projets qui lient l'amélioration des conditions de vie et l'impact environnemental. C'est le classement établi par le site spécialisé américain Devex qui nous l'apprend, qui nous parle aussi de la fondation Ford, une des plus grandes du monde, présente dans 50 pays, ou encore la fondation John Dee et Catherine T. MacArthur, focalisée elle aussi sur le développement humain. Alors une autre fondation célèbre, c'est celle de George Soros, Open Society, qui est plus impliquée sur des questions de gouvernance et de démocratie, mais qui intervient aussi dans le domaine de la santé. Ce qui est certain, note le site de Vex, c'est que ces dernières années, la philanthropie, en particulier celle des riches américains, finance de plus en plus de projets en matière de santé et de développement humain à l'échelle mondiale. Pour le site, ces fondations privées jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus important au vu de la somme de leurs dons et surtout au vu de leur capacité à décider même de l'agenda international sur les questions de développement en mettant en avant telle ou telle question.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Nathalie Arnoux, Médecins sans frontières, qu'est-ce qui se passe donc entre votre organisation et l'OMS ? On lit que en République démocratique du Congo, qui est un pays, il faut toujours le rappeler, qui est en proie à une violence endémique avec un État failli depuis de très nombreuses années, donc le travail sur le terrain des ONG est encore plus difficile qu'ailleurs. Et là, MSF dit l'OMS ne distribue pas suffisamment de vaccins ou freine l'accès aux vaccins.
Tout à fait, c'est exactement ce qu'on dit et je pense que ça rejoint le point précédent sur la question de l'accès à l'innovation qui sous-tend en fait tout ce propos. On l'a dit, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que pendant 40 ans, alors qu'on connaissait Ebola, il n'y a pas eu du tout de recherche et c'est seulement à partir de 2014 qu'on a vu sortir un certain nombre de produits qui pouvaient être utilisés sur ce type de crise.
Donc il y a deux vaccins qui existent aujourd'hui, deux vaccins, donc un de Johnson & Johnson et un nouveau, qui est le dernier.
De Merck et de Johnson & Johnson. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que nous, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que ce vaccin donc a été utilisé sur la République démocratique du Congo. On a souhaité avoir accès à beaucoup plus de vaccins pour être en capacité de répondre à la problématique à laquelle on faisait face, à savoir nous avons discuté et demandé plus de vaccins et donc adopté une stratégie vaccinale qui soit différente de celle qui a été mise en place par l'OMS. Et donc on a eu accès de façon très sporadique à ces vaccins. Et en fait, c'est un peu la discussion que l'on a avec l'OMS. Et quand on demandait d'avoir accès à l'information sur les stocks disponibles de ces vaccins, bien évidemment, on n'avait pas accès à l'information, ce qui fait qu'on ne sait pas si la décision de la stratégie vaccinale est liée à un stock fini de vaccins ou si on a de la disponibilité de vaccins et auquel cas on pourrait changer de stratégie et couvrir...
Mais ça veut dire quoi? Que l'OMS ne répond pas? Enfin, ne donne pas d'explication?
C'est-à-dire qu'on n'a pas eu accès à l'information. On avait... Les entreprises ont dit qu'il y avait assez de vaccins, mais nous, on n'avait pas assez de vaccins. Et donc, on ne comprenait pas la logique entre stratégie vaccinale et mise à disposition de vaccins. Et donc, quand on dit que les solutions sont trouvées aujourd'hui sur la République démocratique du Congo.
Oh, personne ne dit ça. Hein.
Voilà, je pense qu'il me semble que Monsieur Gates a plus ou moins dit que tout
enfin,
était en place pour entrer.
Aborder,
on commence
oui.
à aborder. Bon, en l'occurrence aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de transmission à propos de la tuberculose ou du VIH-Sida. On est quand même à peu près sur la même logique et donc les efforts doivent être redoublés et surtout une mise à disposition de ces vaccins. Donc nous ce qu'on demande en fait c'est beaucoup plus de transparence sur la prise décisionnelle. Et on le demande d'autant plus qu'effectivement tout ce qui concerne la recherche et le développement est lié à des financements qui sont publics et philanthropiques, et on ne voit pas pourquoi la boîte noire ne serait pas ouverte et on n'aurait pas accès à ces informations pour discuter ensemble des stratégies à mettre en œuvre. Donc c'est un peu ça le...
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la recherche est donc financée par des fonds publics et privés, mais les fruits de la recherche, la valorisation, basculent dans le privé, c'est ça que vous voulez dire ?
Elles basculent. La première chose, c'est qu'on n'a pas accès à l'information qui est là, alors que effectivement il y a des contributions, dont des contributions publiques. Et ensuite, pour certains autres produits, pas forcément sur Ebola, mais si je peux prendre le traitement de la tuberculose avec un produit qui a été d'ailleurs fabriqué par Johnson & Johnson qui s'appelle la bédaquiline, qui a bénéficié pour son développement d'investissements publics, d'investissements philanthropiques, du travail des organisations internationales, du soutien du gouvernement d'Afrique du Sud qui a permis en fait de mettre en évidence, de faire de la recherche opérationnelle pour prouver que le traitement fonctionne et donc le passer à l'échelle et le rendre disponible à tous pour la tuberculose multirésistante. Pourquoi les profits seraient-ils privatisés alors qu'il y a eu un investissement public, philanthropique et de la société civile.
Oui, donc, mais il faut quand même reconnaître aussi que dans le système américain, qui est le système prévalent, on peut le regretter, il a ses excès, mais c'est aussi l'argent privé qui finance la recherche, et notamment au niveau des grandes universités, qui sont très largement dotées par le business.
En partie, oui, mais l'argent public est aussi extrêmement important. Et il y a tout un tas de mécanismes un peu techniques sur lesquels je vais pas m'apesantir là, mais qui permettent, en fait, qui facilitent l'accessibilité à ces produits sur le marché assez rapidement, sans que l'ensemble des preuves soient complètement fournies, les essais cliniques soient complètement aboutis. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en place et qui sont en fait cette aide aussi publique qui vient en argent sonnant et tambouchant, mais aussi à travers de mécanismes. Et nous, on le voit aujourd'hui, finalement, mais c'est vrai aussi pour le VIH-Sida, c'est vrai pour la tuberculose, c'est vrai pour Ebola. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est finalement aussi le système de recherche, la façon dont il est financé et la façon dont on a accès, en fait, aux fruits de cette recherche pour le mettre à disposition du plus grand nombre. Et c'est quand même bien ce qui est en jeu aujourd'hui, que ce soit pour le Fonds mondial ou que ce soit pour le cas d'Ebola.
Professeur Manu Guérard, s'il est un modèle qui est véritablement singulier et que le monde nous envie, c'est bien le modèle de l'Institut Pasteur. Parce que là, vous avez à la fois une vocation publique et une vocation aussi de réaliser du profit avec vos activités diverses.
Non, nous ne réalisons pas de profit, nous sommes une fondation privée à but non lucratif.
Oui, mais néanmoins...
Et nous ne faisons pas de... Dans nos statuts, nous ne pouvons pas faire de profit. Nous sommes une fondation à but non lucratif. Nous sommes effectivement une fondation qui bénéficie du soutien de l'État français, également aussi qui bénéficie du soutien des financements européens à travers des appels d'offres auxquels nous répondons de manière compétitive comme tous les instituts de recherche et d'université en Europe. Et aussi, et je voudrais parler d'eux, nous bénéficions du soutien de donateurs modestes et la somme de petits, ce qu'on appelle les petits donateurs et donateurs modestes peuvent être conséquences et nous permettent de fonctionner. C'est à peu près des dons et legs pour nous, à peu près 25% de notre budget. C'est très important. Et nos missions, à part l'enseignement et la recherche et la santé publique, c'est effectivement de faire de la recherche et cette recherche de la rendre publique
et de la
valoriser bien sûr
voilà, je pour me suis financer exprimé maladroitement mais vous valoriser les fruits de vos recherches.
Les revenus les revenus qui viennent des licences, parce que nous ne vendons rien, nous ne fabriquons rien. En revanche, nous mettons en licence nos découvertes, notre propriété intellectuelle, qui est prise par des industriels qui, eux, effectivement, font des profits. Et les redevances que nous percevons de ces recherches sont réinvesties soit dans le fonds de dotation de la fondation, soit directement dans la recherche.
Et c'est pour ça que c'est donc un modèle qui est tout à fait
efficace.
C'est à peu près
30% de notre revenu.
Et admirable sur le plan éthique. Quand on voit le coût que représente chaque pandémie, j'ai lu quelque part que c'était estimé à quelque 35 milliards d'euros. On ne sait pas très bien comment on parvient à un tel chiffre, mais on voit qu'il y a différents projets internationaux pour tenter d'évaluer les dangers, c'est-à-dire le nombre d'espèces virales qui sont pour le moment inconnues, mais qui pourraient à terme devenir pathogènes. Comment est-ce que ces différents programmes qui s'appellent, je crois, PREDICT, oui. Il y en a un autre qui est financé notamment par l'Union européenne qui s'appelle EBO Sursis.
Alors oui.
Et le Global Virome Project,
oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, je pourrais parler plus précisément d'Ebo Sursis parce que nous sommes directement associés à l'Institut Pasteur. Il y a deux autres institutions françaises qui sont associées, dont l'IRD. Et là, c'est un programme qui est vraiment axé et c'est coordonné par l'OIE. Donc l'OIE, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, dont siège est Rue de Prony à Paris. Et c'est eux qui coordonnent. L'idée, c'est d'étudier la circulation des virus dans les populations animales pour mieux connaître la circulation en dehors des chauves-souris, même si c'est pas encore prouvé que pour Ebola, c'est bien les chauves-souris qui sont les réservoirs.
C'est pas encore prouvé.
C'est prouvé pour le virus de Marburg, mais pour Ebola, on a de fortes suspicions, mais ça n'est pas prouvé de manière complètement certaine. Et donc là, c'est essayer de comprendre un peu l'écologie du virus pour essayer de faire des barrières à l'interface animal-homme pour éviter que ne démarrent les épidémies, puisque le virus n'est pas installé encore dans l'espèce humaine de manière permanente. L'homme n'est encore pas un réservoir pour ce virus. Les autres programmes, comme PREDICT, sont des gros programmes. Alors, c'est des programmes qui, à mon avis, donneront pas beaucoup d'informations. On va découvrir des tas de virus, mais on ne saura pas dire lesquels vont causer des épidémies. Par exemple, on prend Zika, le virus Zika, qui est le nom d'une forêt ougandaise. C'est un virus qu'on connaissait depuis longtemps. Nous, on l'avait dans nos frigos. On avait même fait des antigènes recombinants pour faire des tests sérologiques. Mais en fait, on pensait jamais qu'on allait. C'était un peu comme une collection de timbres. Et personne s'est vraiment penché. C'est vraiment penché sur ce que l'avenir possible de ce virus. Et même quand il y a eu les premières épidémies en dehors du berceau africain, notamment en Micronésie, à Yap. Personne ne s'est dit ben le virus a quitté l'Afrique et peut-être qu'il va avoir une carrière internationale beaucoup plus large que ça. Il a fallu attendre 2013 pour avoir une épidémie plus grosse en Polynésie française et dans l'océan Pacifique.
Et là, vous avez dit, c'est plus un timbre-poste.
Et là, on s'est dit, c'est plus un virus de collection, mais ouais. C'est un virus qui peut avoir une importance. Et on a découvert, lorsqu'il est arrivé sur le territoire sud-américain, que avec les cas, des effets rares de ces infections, qui en général sont bénignes, pouvaient être très très graves. Alors, grave comme le syndrome de Guillain-Barré, mais qui se résout sans séquelles. Et puis les microcéphalies chez les bébés nés de mère infectée. Donc c'est très difficile, même quand on compte les virus. On a notamment dans les instituts du réseau international des instituts Pasteur, des collections de virus avec des noms très exotiques, dont on connaît maintenant de mieux en mieux le génome, mais il est très difficile de prédire lequel tirera son épingle du jeu parmi ceux qu'on connaît déjà.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la porosité des terrains, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que les virus s'encouragent les uns les autres. Alors, et c'est comme ça qu'on voit ressurgir la rougeole, par exemple.
Alors, ce sont les épidémies qui s'encouragent les unes les autres. C'est-à-dire que, en fait, lorsque un système est paralysé par une épidémie violente, une épidémie violente comme celle d'Ebola, par exemple, mais pas seulement, ça peut être les inquiétudes autour de Zika, notamment pour les femmes enceintes en Amérique du Sud, mais pas que, tous les moyens sont dirigés vers cette épidémie qui est violente, et on oublie les actions de prévention, qui sont les actions de base, et qui sont ceux qui, comme vous l'avez dit, ont fait baisser la mortalité infantile, ont monté l'espérance de vie depuis le XXe siècle, et notamment, c'est l'arrêt des programmes de vaccination dû à ces difficultés que causent des épidémies, d'autres épidémies. Donc effectivement, ce sont des réactions en domino. C'est vrai qu'il faut pas négliger les actions de prévention des autres maladies qui sont faites habituellement.
Ce qu'il faut en tout cas comprendre, c'est que nous devons tous faire face au coût de ce que représente aujourd'hui la mobilité, la démographie et le changement climatique. Tous ces facteurs combinés accélèrent évidemment la multiplication des risques de ce genre.
Alors, on l'a compris très bien en 2003. Je reviens encore à l'épisode de la pneumopathie atypique en Asie du Sud-Est et ou SRAS. Là où, en fait, on avait un règlement sanitaire international qui était obsolète, qui avait une liste de maladies, et quand il y avait une nouvelle maladie, il n'y avait aucun outil. Et donc, il a été décidé de faire un nouveau règlement international, qui est le règlement international 2005, qui a commencé à s'appliquer en 2009. Et là, il y a évidemment des listes de maladies fixes, mais également un algorithme pour tester la dangerosité au niveau mondial. Et donc, c'est là où s'est installée la déclaration d'événements de portée mondiale qui est déclarée par l'OMS quand les maladies dépassent les frontières d'un seul pays. Et c'est très important. Alors, il y a les effets directs sur la santé, et puis les effets collatéraux sur l'économie. Et ce qui a très bien été montré en Asie du Sud-Est, c'est que les économies de Singapour, de Hong Kong avaient été impactées de manière très significative par cette épidémie qui finalement, c'est des chiffres, c'est toujours terrible de dire ça, a fait moins de 900 morts en tout. Mais le prix à payer économiquement était très très fort, et c'est pour ça que dans le nouveau règlement sanitaire international, on essaie de faire en sorte que de limiter la limitation des mouvements, et on privilégie le confinement du problème à la source plutôt que la fermeture des frontières et les quarantaines.
J'ai demandé à Bill Gates, et en terminant notre entretien, jusqu'à quel point il considère que les gouvernements, que certains gouvernements peuvent véritablement entraver l'action de fondations comme la sienne, et à commencer bien évidemment par l'administration Trump. Écoutez sa réponse.
Le gouvernement américain, en fait, n'a pas coupé les soutiens financiers, parce que finalement, c'est le Congrès qui a le dernier mot sur les dépenses. Et en fait, à Lyon, la semaine prochaine, nous aurons certains des membres du Congrès qui ont fait preuve de leadership en faisant que les États-Unis maintiennent leurs dons dans le cas de la recherche contre ces maladies. Et nous sommes significativement le plus grand donateur. Ce n'est pas très utile lorsque les gens cessent d'investir dans les alliances internationales et se renferment sur eux-mêmes. Mais il faut résoudre les problèmes mondiaux, y compris les problèmes de santé, les problèmes de paix et le changement climatique. Et nous sommes très heureux que le président Macron ait fait porter sa voix en faveur de la coopération. Il a montré du leadership en donnant son temps pour cette conférence mondiale. On a besoin de plus de dirigeants tels que lui.
On a vu la semaine dernière à New York le peu de résultats, l'absence même de résultats du sommet mondial sur le climat. Est-ce que vous partagez cette déception? Est-ce que votre fondation entend s'engager davantage sur ces questions?
Le climat, c'est un défi tellement énorme. C'est un grand défi de financer l'adaptation pour les pays les plus pauvres qui vont souffrir le plus, d'aider les agriculteurs dont les récoltes seront détruites plus souvent. Nous aurons quelques signes de progrès, de l'argent pour améliorer les semences qui supporteront la chaleur et qui auront une productivité accrue. C'est un verre à moitié plein. On voit des gens qui agissent, mais le problème est tellement énorme, c'est du côté de l'adaptation, de l'atténuation des effets. On peut ressentir, par exemple, on se pose la question, est-ce qu'on va relever le défi? Certains pays prennent ça à bras le corps, d'autres, tels que les États-Unis, au niveau fédéral, s'engagent un peu moins. Donc, bien sûr, le climat, c'est très important. J'ai été impliqué dans le climat parce que nos fondations
le porte au niveau mondial. Et ça m'a fait réfléchir à ça. Oui, ça rendra tous nos buts plus difficiles à atteindre, parce que la malnutrition fait que ces pays les plus pauvres, lorsque la moitié de vos enfants sont mal nourris, ce sera difficile de faire sortir vos pays de la pauvreté et de devenir autosuffisants. Donc le climat, il y a certaines des bonnes choses qui se produisent, ça ne suffit pas, bien entendu. Et l'année prochaine, on mettra l'accent là-dessus. Je travaille en ce moment sur un livre sur le climat et nous aurons la COP 26 à la fin de 2020. Il faut que les pays en fassent plus, il faut plus de coopération.
Bill Gates, vous avez toujours fait montre d'un optimisme inébranlable et vous avez souvent soutenu que la technologie est et reste la meilleure réponse aux défis du monde aujourd'hui. Est-ce que vous restez optimiste?
Je suis optimiste pour répondre de façon directement à votre question. Mais je n'ai jamais dit que la technologie seule pourrait résoudre les problèmes. Lorsque l'on voit des choses comme des nouveaux vaccins ou des médicaments contre le VIH qui ont sauvé des vies, oui, la technologie fait partie de la réponse. Et c'est là que la fondation et mes antécédents signifient que nous pouvons contribuer beaucoup en accélérant certaines de ces innovations. Mais oui, je suis optimiste en ce qui concerne la capacité de continuer à faire des progrès.
Voilà, merci. Merci donc à Bill Gates qui était avec nous au téléphone il y a 3 jours depuis Seattle et qui sera à Lyon la semaine prochaine à la réunion du Fonds mondial. Merci aussi à son équipe de Londres, puisque l'équipe de la Fondation pour l'Europe est basée à Londres. Je vous remercie, Jean-Claude Manuguera, directeur de l'unité Environnement et risques infectieux, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Et j'imagine évidemment que sur le site de l'Institut, on peut trouver toutes sortes d'informations qui compléteront ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Merci à vous, Nathalie Ernoux, directrice de plaidoyer pour la campagne d'accès aux médicaments essentiels à MSF International. Je remercie bien sûr Corinne Carema, médecin, responsable du programme du contrôle et d'élimination du paludisme au sein de l'Alliance des dirigeants africains. Merci bien sûr à Hamdam Mostafavi de Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Valérie Lavalard, et je n'oublie pas bien évidemment Michel Zotowski qui a traduit pour nous parfaitement, comme à chaque fois, Bill Gates. À la préparation de cette émission, Hugo Boursier, et dans un instant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.